française.
Latina.
La franco-latina.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bonjour. Une nouvelle fois, depuis la maison de l'Amérique latine, bercée, si on peut dire, par ce titre qui s'appelle Matucana. Matucana, c'est quelque chose qui va dire plus de quelque chose, j'imagine, à l'un de nos invités d'aujourd'hui. C'est un thème qui fait partie d'une compilation du nouveau jazz chilien. Vous savez que dans les émissions en français, nous découvrons des musiques latino-américaines. Allez, un petit coup de Matucana encore. Nous sommes donc à la Maison de l'Amérique latine pour un nouvel enregistrement public du boulevard Franco-Latino. Et je vous disais donc, aujourd'hui, nous avons deux invités pour des raisons différentes et que nous allons découvrir en écoutant des choses qui, d'une certaine manière, les identifient et expliquent leur présence parmi nous.
Chaque monde qui a souffri, chaque monde qui gagne un cas qui crasé, chaque monde qui gagne une famille qui mourit, connaît que c'est des milliers de monde qui sont dans la même situation. Et que dans n'importe quel pays, on peut se consacrer à bien, n'importe quel pays a des difficultés pour immédiatement donner chaque monde satisfaction. Le peuple a souffri, il faut respecter le peuple. Faut dire peuple à la vérité, parce que c'est gens vraiment pour aider le support des souffrances.
C'était là le président Préval, presque au lendemain de la catastrophe, dans une radio des fortunes qui avait réussi à remettre un peu une antenne dans des conditions de fonctionnement. On s'imagine bien que lorsqu'il y a un tremblement de terre, il y a la panique, il y a surtout une coupure de communication, il y a l'envie de savoir. Anne-Marie Gustave, journaliste à Télérama, est partie à Haïti pour voir ce qu'elle aime toujours voir en France et ailleurs, la radio et surtout le rôle social de la radio. Elle est avec nous ce matin pour nous raconter ce qu'elle a vu là-bas. Bonjour Anne-Marie, bienvenue.
Bonjour.
Sur le boulevard.
Bonjour.
Alors en deux mots, une première impression de ce que vous avez trouvé sur place.
C'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde où les radios, c'est le seul média qui peut jouer un rôle pour essayer d'aider les gens, à part l'affichage, un rôle essentiel, puisqu'il y a quasiment plus de télévision, puisqu'il n'y a plus d'électricité. Enfin, il n'y avait pas d'électricité, moi, quand j'en suis partie. Et de toute façon, avant le tremblement de terre, il n'y en avait pas beaucoup. Il fallait que les gens aient des systèmes pour se la fabriquer, l'électricité. Et la presse écrite n'existe quasiment pas. Donc, finalement, le seul moyen d'être informé dans ce pays, déjà avant le tremblement de terre, et à la puissance sans après, c'est la radio.
Quelques milliers de kilomètres au sud, les radios, les télés, les affiches, tout a marché pour véhiculer les messages qu'on véhicule en général lorsque on est en campagne. Et parmi tous ces messages, il y avait celui-ci.
Marco por ti, Chile tiene que cambiar.
Porque la gente en todo Chile un gran paso contigo va a dar.
Marco por ti, Chile tiene que cambiar. Porque la gente en todo Chile un gran paso contigo va a dar.
Marco por ti, Chile tiene que cambiar. Porque la gente en todo Chile un gran paso contigo.
Marco por ti, Chile tiene que cambiar. C'était l'un des jingles d'une campagne, entre autres choses, très chaloupée, si je peux dire, de Marco Enrique Sominami. Marco Enrique Sominami, quelqu'un qu'on a traité de tous les noms, depuis l'Obama chilien jusqu'au Trublion, en passant par les responsables de la défaite de la majorité présidentielle sortante. Marco Enrique Sominami, qui est avec nous ce matin. Bonjour Marco et bienvenue sur le boulevard.
Bonjour Eduardo, enchanté de te revoir.
Alors, hier, on voyait, c'est un moment spécial de l'Amérique latine, on voyait le nouveau président avec la présidente Bachelet au Mexique participer du sommet où l'Amérique latine apparemment a donné un coup d'envoi à une nouvelle forme d'unité. Est-ce que toi, en tant que citoyen chilien, et comme bien d'autres, ont mal au ventre lorsqu'ils voient Piñera s'approcher lentement du palais de la Moneda?
Oui, bien sûr. Je me suis battu contre lui. J'étais son opposant en tant que candidat et on n'est pas d'accord. Mmh. On a un regard différent de société et ça a été très dur dans la campagne. Ça a été très dur pour les quatre candidats. Si on est candidat présidentiel, par définition, on pense qu'on a des regards différents. On leader des équipes différentes à celle de Piñera. Moi, en tout cas, j'avais des grosses différences. J'ai des grosses différences avec lui, mais pour l'instant, je viens de faire une radio chilienne il y a une minute. Et c'est la première interview que je donne à la radio après l'élection, parce que je n'avais pas voulu donner aucune interview. Et on m'a fait de la tricherie comme dans toutes les interviews. On avait dit qu'on n'avait pas posé de questions sur Piñera, on m'en a posé. Ça fait 5 minutes. Et je vais te répondre à la même chose que j'ai répondu. C'est que je trouve que si moi j'aurais été élu, j'aurais aimé que les perdants soient très respectueux de mon gouvernement une fois qu'ils s'installent. Piñera n'a pas encore assumé. J'ai plein de préjudices sur ce qu'il est en train de faire, mais je préfère émettre un jugement une fois qu'il sera au gouvernement. Pour l'instant, il est un président élu. Et il n'est pas au gouvernement.
Alors, tu étais d'abord député du Parti Socialiste, et début 2009, il y a cette idée, cette projet de candidature présidentielle qui fait long feu à l'intérieur du Parti Socialiste, ce qui t'amène à quitter le Parti Socialiste et à entamer une bataille électorale en indépendant. Avec tout le travail de trouver les signatures pour se présenter, et puis voilà, tout d'un coup, une sorte de phénomène qui monte. Est-ce que toi-même, tu as été surpris de voir l'ampleur que ça prenait si rapidement, finalement?
L'histoire commence un peu avant. Elle commence en 98, quand Eduardo Frei, président du Chili, défend Pinochet à Londres. Moi, j'étais réalisateur de films très mauvais, mais j'étais très content de faire des films mauvais.
C'est une coquetterie, ça
Non, c'est vrai, j'ai aucun succès. Mais j'ai m'amusé énormément. Et à un moment, en 98, Pinochet est défendu à Londres par la gauche chilienne. Et là, je décide de rentrer en politique. Je trouve tellement grave le gouvernement de centre-gauche défendre Pinochet. Pas parce que ça a un impact direct sur un projet de société, mais si sur le type de politicien que tu as au pouvoir. C'est des gens qui sont prêts à tout, à vendre la maman demain. Et donc, je trouve qu'il y avait un excès, que ça me blessait en plus parce que c'était pas juste. Bon, c'était un dictateur. Il était accusé de crimes gravissimes. Et quand tu vois toute une diplomatie, tout un gouvernement qui se met à mentir aux Chiliens et au monde sur l'idée de qu'il n'y a pas de crime extraterritorial et que donc un dictateur doit être jugé seulement par des tribunaux chiliens et par des juges qui ont été nommés par Pinochet et que c'est mis sur la bouche de ses propres victimes. Tu dis, il y a un gros problème dans cette classe politique qui est prête à tout pour pas perdre le pouvoir. Et voilà, j'ai décidé de rentrer en politique, j'ai commencé à faire un documentaire beaucoup plus politique, j'ai laissé les comédies, j'ai arrêté de faire des fictions, j'ai commencé à rentrer dans le documentaire, dans un regard plus compromis ou plus engagé. Et voilà, et donc en 2005, je deviens député, je suis candidat. Le Parti Socialiste me demande d'être candidat dans une zone où ils n'ont jamais élu, où depuis 50 ans, ils n'avaient pas de député. J'accepte le défi. Je n'ai pas été désigné par primaire, ce qui m'a toujours trop semblé pas correct. J'étais désigné à dedo, au doigt. Et une fois que je suis député, je commence, une des premières lois, c'est de présenter que plus jamais quelqu'un soit désigné député comme je l'ai été. Que ce soit par primaire, par exemple. Et on commence avec un groupe de députés à libérer tout un processus de lois, 200 lois qu'on a présentées, qui pour nous étaient des débats de société, sur la fiscalité, sur les impôts, sur les entreprises publiques, sur l'avortement, sur les droits civils, sur la santé, la moins.
Est-ce que ces aspects de société, qui sont effectivement des aspects où on... t'as vu très souvent, sont les aspects qui t'ont choqué le plus de la façon dont on a gouverné le Chili les derniers 20 ans?
Non, il y a deux choses. Moi, je suis très orgueux de ce qui a été fait. Je ne peux pas dire que ce serait absurde de... Je le dis comme slogan, c'est pas moi qui l'ai inventé comme formule, mais ne pas reconnaître la concertation de ces 20 ans, c'est pas avoir de cœur. Penser la répéter, c'est pas avoir de tête. Enfin, je pense qu'ils ont fait un très, très, très bon projet dans les données qu'il y avait, les militaires hors des casernes et tout ça. Mais la société qu'ils ont créée, c'est une société qu'eux-mêmes n'aiment plus. Et cette névrose les a emmenés à détester tout symptôme de critique envers ce qui a été fait et sur le futur. Et donc, ils ne parlaient plus de futur. Ils parlaient tout le temps de l'orgueil de l'œuvre, ce qu'ils appelaient la defensa de la obra, la défense de l'œuvre. Et par rapport à ça, nous, on avait des vraies différences. On avait des vraies, vraies différences qui étaient axées sur, sur ce qui avait été fait et sur le futur. Et donc là, j'ai libéré avec un groupe de députés tout un chemin qui était programmatique. Et c'était pas une candidature ce qu'on cherchait au début. C'était on voulait pas être réélu député. C'était un groupe de 12 députés, tous des premières majorités. Des acteurs de télévision, des directeurs, c'était des médecins. Et on voulait pas. Ils étaient pas si jeunes, il y avait des gens très âgés, de 78 ans même. On était un groupe, comme ça, très hétérogène. Mais la réélection n'était pas notre obsession. On avait dit, on va à la réélection si quelqu'un, un candidat, prend les 10, le décalogue, prend les 10 textes qu'on propose. Et comme aucun candidat n'a voulu, on a dit, c'est très simple, on va donc défendre nous-mêmes ce décalogue qui est un texte très simple de 10 pages. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que le premier point du décalogue était très désagréable pour la politique. C'était que on demandait des primaires. Mm-hmm. Et comme personne voulait faire des primaires, on a eu un vrai problème. Et à un moment, les élites politiques ont dit, ok, on fait des primaires. Parce qu'on est dans un mauvais moment, la concertation va pas bien, la coalition de gouvernement. Et une fois qu'ils ont fait les primaires, on s'est inscrit. Et quand on s'est inscrit, ils ont changé d'avis, ils ont dit, il n'y a plus de primaires. Et là, on s'est fâché. Pour le faire en facile.
Et donc, c'est là qu'est né le projet de candidature indépendante.
Une fois qu'ils changent les règles. Voilà, un jeudi 15 janvier, on s'inscrit avec les règles que eux, ils avaient fixées. Et le lundi 18 janvier, ils changent les règles. Et là, on a dit, comme il n'y a pas un accord programmatique, et comme il n'y a pas, même pas un accord qui est principal, c'est comment on va résoudre nos différences avec le centre catholique, avec qui on avait des vraies différences, la démocratie chrétienne. Et comme dans la même gauche, on trouve qu'il y a des gens qui sont très conservateurs, on dit, il n'y a pas de mécanisme pour se mettre d'accord, et la seule façon, c'est des primaires. Au moins, ce groupe de députés, ça ne nous servait pas qu'un candidat nous dise qu'il allait faire tout ce qu'il allait dire. On n'y croyait pas, parce que ça fait 20 ans qu'ils étaient au gouvernement, ça fait 20 ans qu'on légifère pas sur l'avortement, ça fait 20 ans qu'on légifère pas sur le sujet de la Bolivie, ça fait 20 ans qu'on n'avançait pas sur des dossiers. Sur d'autres dossiers, bien sûr que ça a avancé, mais il y a d'autres dossiers qui pour nous étaient très chers, et où ça avançait pas. Et voilà, donc on a décidé de... Sur l'environnement, je pense, il n'y a pas de loi pénale médiamentale, il y a des quantités de dossiers qui sont absents. C'est plutôt sur les silences de la concertation, c'est pas sur les erreurs. Surtout les absences où la concertation n'a pas pris d'opposition par peur à se gauchiser ou, par objectivement, un veto que la droite appliquait.
C'est le rendez-vous manqué plutôt.
Voilà, c'est plutôt ça que c'est pas une critique acide en disant tout ce qui a été fait était très mauvais, c'est plutôt... Il y a des silences, et on va aborder les vrais silences, qui pour nous, au moins, ce groupe de 12 députés, c'était pas plus, c'était très important.
C'était à l'époque un groupe de députés où il y avait des gens de plusieurs partis, non?
Oui, de chrétiens, de centre-gauche. De la coalition. Dans le gouvernement, mais des quatre partis, il y avait des radicales, des PPD, des socialistes et des démocrates chrétiens.
Ok, Marc Enriquez Dominami qui vient en France, ou on peut dire revient, on y reviendra. Après cette première chanson, elle est d'un Argentin qui s'appelle Léon Gieco, tu dois connaître certainement, interprété par un autre que tu dois connaître aussi bien en tant qu'être curieux et que cinéaste, c'est Gustavo Santaolalla, le musicien oscarisé pour les bandes sonores, excuse-moi, notamment du film Duché, de Brokeback Mountain, etc. Gustavo Santaolalla, 5 siglos igual.
Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras. Medalla de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. Secan las piedras a un lado que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres. 5 siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra tierra, la historia se cayó. Como se caen las piedras a un lado que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. 5 siglos igual.
C'était l'Argentin, Léon. Non, c'était Gustavo Santaolalla plutôt, qui interprétait une chanson de l'Argentin, Léon Gieco. Avant de revenir à Anne-Marie à la radio, juste une dernière chose, Marco. On écoutait en début d'émission une chanson. La campagne, c'est vraiment une campagne en chantant. Et il faut dire que ce n'était pas seulement ton cas, ta candidature, mais l'ensemble des candidatures. On aurait dit que c'était presque une guerre des chansons, quoi. C'est traditionnel, ça, au Chili, de faire la campagne comme ça?
Oui, parce que Pinochet avait fait une grande gaffe en 87. Quand l'opposition négociait le retour à la démocratie, il n'y avait pas de financement. Et sur la pression de l'opposition, il avait accepté qu'à la télévision, au prime time, 10 minutes avant les news, il y avait des minutes libres pour la politique, pour les campagnes. Et c'est comme ça que l'opposition a gagné contre Pinochet, qui a quand même eu un très bon score, 43%. Et la différence avait fait la télévision. Donc c'est devenu la télévision pour la politique très importante. Tout ça a décliné beaucoup, mais c'était à l'époque très important. Et donc tout le marketing politique a eu un grand essor depuis 1988, à cause de que Pinochet avait ouvert cette porte. Donc la télévision était gratuite pour pour le plébiscite. Et ça s'est gardé pour les candidats présidentiels. On a 5 minutes, une fois que tu t'inscris comme candidat, tu as le droit à 5 minutes non payantes à l'antenne tous les jours avant les news.
Anne-Marie, Gustave, en France, on ne fait pas ça, de faire de la politique en chantant.
Non, non, non. Puis c'est jamais gratuit, je pense. En
ouais, plus.
Mais il y a les 5 minutes, ou je ne sais pas, d'expression.
Oui, il y a des expressions politiques.
Et personne n'a fait un clip, à part l'UMP qui a fait
oui.
une chanson.
Oui, il y a quelques, d'ailleurs, qui ont été faits de manière frauduleuse, et ça pose des problèmes ensuite. Mm-hmm. Et c'était le cas de l'UMP.
Alors, revenons à Haïti. Vous êtes allé parce qu'il y avait une sorte de solidarité qui avait été montée par Radio France, je crois, avec les radios haïtiennes. Et racontez-nous un peu plus.
C'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'est le Quai d'Orsay qui a demandé à Radio France d'aller remonter la radio de l'ONU. Parce que si vous vous souvenez bien, le bâtiment de l'ONU s'est totalement effondré. La radio était à l'intérieur de ce bâtiment. Et donc, Radio France est partie avec je ne sais plus combien de tonnes de matériel pour remettre sur pied des radios, dont celle de l'ONU. Et ils l'ont fait. D'ailleurs, ils l'ont fait une première fois sur la base logistique de l'ONU. C'est-à-dire près de l'aéroport, ils se sont installés ailleurs, puisque de toute façon, il y avait tout était effondré. Rappelez-vous, il y a eu, quelque chose comme 200 morts hein, dans cet endroit précis. Et près de l'aéroport, donc, ils ont installé un nouveau studio dans un hangar. Et le 17 janvier, il y a eu une réplique très importante à 6-1 qui a démoli ce studio. Ils l'ont reconstruit une deuxième fois. Un petit peu plus loin. Et voilà, et depuis, ils sont. Alors, je sais bien que pour nous, de très loin, ça, on a l'impression que c'est très important de remettre sur pied la radio de l'ONU. Ça paraît évident quand on n'y est pas. Mais quand on y est, on se rend compte que ça ne sert pas grand-chose parce qu'elle est très peu écoutée, en fait. Très peu écoutée.
J'imagine.
Ouais.
Alors, justement, à propos d'écoute, on a vu les images des conditions dans lesquelles les gens étaient. Et quand ils n'ont pas perdu la vie, ils ont tout au moins perdu leur bien personnel. J'imagine qu'ils ont perdu les postes de radio aussi. Ils écoutaient la radio où?
Eh bien, écoutez, tous les Américains sont venus, par exemple, avec 60 000 postes.
Ah ouais.
Oui, chacun des pays est arrivé avec des postes de radio, des postes solaires et à manivelle, qui permet de de remonter le petit mécanique et donc de pouvoir l'écouter. Et les distributions, d'ailleurs, j'ai assisté à une distribution, mais c'est à la folie, hein. C'est-à-dire que les gens se tueraient pour avoir cet objet-là. Alors bien sûr, il y a peut-être des gens qui veulent les récupérer pour les revendre parce qu'ils ont besoin d'argent, mais il y a surtout des gens qui ont besoin de savoir où sont les hôpitaux ouverts, où sont les distributions de nourriture, où sont leurs familles, où sont, parce que les gens sont dispersés. Je veux dire, il y a aussi, il y a pas que des voleurs, hein. Contrairement un petit peu à ce qu'on dit, on a dit qu'il y avait beaucoup de pillards, mais effectivement, quand on crève de faim, parfois on trouve des manières un peu détournées pour manger, quoi. On ne peut pas appeler ça non plus des voleurs ni des pillards.
Il y a eu des avis contradictoires. Parfois on voit des reportages où on parle d'un peuple optimiste, d'un peuple qui va de l'avant malgré la tragédie. Parfois on dit un peuple accablé qui est complètement fataliste et résigné à son sort.
Les deux sont vrais, c'est ça qui est très très, moi j'ai découvert en fait le deuil collectif, quoi, parce que au-delà des 220 000 morts, les gens ont perdu aussi leur maison, même ceux qui n'ont pas de victimes parmi leurs proches ont tout perdu. Donc c'est aussi le deuil de la vie d'avant. Donc c'est une espèce d'immense deuil collectif qui concerne tout le monde. C'est d'ailleurs extrêmement émouvant, quoi. C'est très très fort. Et dans ce deuil là, il y a effectivement les deux. Il y a la désespérance. Il y a une quantité de gens, par exemple, qui prient parce que ils estiment que s'il y a eu ce tremblement de terre, c'est parce qu'ils ont péché. C'était des mauvaises personnes. Ils ont fait des actes délictueux. Et puis il y en a d'autres qui remercient, qui prient. Remercier Dieu de leur avoir donné la vie sauve. Alors vous avez ces deux tendances comme ça qui sont très très fortes, surtout la nuit, parce que la nuit, dans la journée on cherche à survivre et dans la nuit les gens prient. Donc la nuit c'est des forces comme ça qui partent de cette terre et c'est extrêmement fort et extrêmement émouvant. Surtout que à cela s'ajoutent les chiens qui hurlent à la mort parce qu'ils ont faim et puis que ils ont certainement perdu aussi leur maître. Il y a les policiers qui tirent en l'air pour chasser les voleurs. Et puis il y a ces prières qu'on entend. Puis il y a le feu, parce que les gens, les particuliers, une fois qu'ils ont réussi à récupérer ce qu'ils pouvaient dans leur maison totalement démolie, ont mis le feu, de manière à ce que leurs objets personnels ne soient pas volés ou au moment où va arriver le bulldozer. Donc il y a des feux partout dans la ville. Et puis il y a une deuxième sorte de feu. Beaucoup de personnes, à l'époque où j'étais, parce que je pense que maintenant ça ne doit plus être vrai, mettaient le feu à des chambres à air pour ne plus sentir l'odeur du cadavre. Donc la nuit, c'est apocalyptique.
On va écouter une autre chanson avant de retrouver Marco Enrique Sominami, avec qui on va parler de quelque chose dont j'ai parlé déjà un peu, à savoir le fait que il a passé son enfance en France, il a fait son école en France, donc pour lui, c'est pas seulement venir en France, mais presque un peu revenir, en tout cas de passage. La chanson, elle est bolivienne, c'est du hip-hop bolivien, ça s'appelle América Latina, le groupe Ucamau Ike.
Marca, no queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se caiga en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia. Bayonetas del Estado, presidente general, todos los países imperialistas se hace manejar, recibiendo órdenes de masacre, jerarquía de maleantes. ¿Y qué carajo de aquellos traidores que han jurado cambiar? Han seguido con el gran mercado, todo lo que encuentran a su paso lo van privatizando, hasta el tiempo de las personas en mercancía lo están transformando. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. El capitalismo, una organización urbanización injusta, de enorme expropiación que a la gente le asusta, porque han acaparado los medios de producción, donde muchos campesinos de sus propias tierras han vivido la expulsión. Esto es lo que quiere la globalización, seguir manteniendo gente en opresión con la super explotación. Económica, una gran polémica. América Latina está acá. Crisis económica, una gran polémica. Desempleo, una forma de manipular al hombre que lo deja en la calle con hambre, muchas veces ganando bajos salarios, siendo maltratados, explotados por malos empresarios. Nos dan un poco para que la gente se calme y así en el país nada cambie. Estamos viviendo bajo una dictadura del capitalismo, el juego mismo del imperialismo, que se mueve por el mundo entero como un sismo, diciendo que esto es culpa del terrorismo. ¡Ah!
América Latina, vu du point de vue du hip-hop bolivien du groupe Ucamau Ike. Boulevard Franco-Latino, en direct depuis la Maison de l'Amérique Latine, avec ce matin l'ex-candidat à la présidence de la République du Chili, Marco Enríquez Ominami, le troisième homme plutôt inattendu dans un pays où on s'était habitué à avoir une droite et une gauche qui, pendant 20 ans, ont cherché à se disputer le pouvoir. Marco Enríquez Ominami, qui a grandi en France, est la première chose que j'ai envie de te demander, est-ce que tu as l'impression que dans la façon de faire la politique, c'est un pays qui t'a inspiré?
Enfin oui, Anne-Marie ne va pas être d'accord, peut-être. Moi j'ai toujours trouvé que la distribution du pouvoir au Chili a gardé des traits coloniales. C'est très colonial au Chili. La figure du président chilien est très coloniale. On nomme encore des gouverneurs de l'époque du Zorro. Tu viens des films du Zorro, il y avait les gouverneurs, bah, c'est comme ça. Nous on a des gouverneurs qui sont incroyables. C'est des chefs de province qui n'ont aucune fonction que tu puisses auditer, que tu puisses faire le contrôle de ce qu'il a fait, mais c'est des inspecteurs. Et cette figure coloniale, on l'a gardée au Chili. Et c'est un symptôme de ce que je critique énormément, et j'ai proposé justement d'avancer vers un système semi-présidentiel, c'est-à-dire où il y a un Premier ministre. Et avant ça, c'est un fédéralisme qui ressemble beaucoup plus à la France. J'ai même présidé au Congrès la première commission, peut-être la seule qui a été votée dans cette jeune démocratie, où avec les votes de la droite, on a accordé qu'il fallait avancer vers un système semi-présidentiel et fédéral. Ce qui pour le Chili est une révolution, parce que le Chili a eu que du présidentialisme, et quand il a eu du parlementarisme, ça a été considéré une très mauvaise expérience. Ce qui est faux. On n'a jamais eu de vrai parlementarisme. Les femmes ne votaient pas, había cohecho, enfin c'est pas vrai que tu puisses comparer les systèmes politiques en disant le présidentialisme, c'est le seul, enfin l'autoritarisme de Diego Portales, qui est un leader chilien de 1830 et quelques, que l'autoritarisme colonial peut gouverner ce pays. C'est pas du tout vrai. Et donc, moi, je propose de distribuer plus le pouvoir.
Pour revenir à la France, il y a un détail, par exemple, pendant la campagne électorale, dans les débats sur le système d'éducation.
Oui.
Tu faisais souvent allusion à ton éducation, à l'école publique. Mmh. Effectivement, ça a été pour toi une expérience marquante que tu aimerais d'une manière ou d'une autre pouvoir voir exister au Chili.
Moi, j'ai eu un exil qui a été très dur par moments, mais aussi très aimable par d'autres. J'ai été reçu par la France. Sauvé quelque part par la France, j'ai eu santé, éducation dans une famille qui appartenait à une certaine élite au Chili, mais qui ici a vécu, comme toi, comme tout le monde, dans des conditions très dures. Ma mère était étudiante, Carlos, mon père, était étudiant, et on était plutôt je ne veux pas te dire qu'on était extrêmement pauvre, on n'était pas du tout riche, et donc on dépendait totalement de l'aide de l'État français. Et moi, j'ai été éduqué dans un lycée public, pour lequel ma mère n'a rien payé, et qui était, pas 10 fois, elle était 1 million de fois mieux que l'école privée où j'étais au Chili. Quand je suis arrivé à l'école privée, une école qui coûtait $400 par mois.
L'Alliance française, voilà, pour ne pas la nommer.
Ouais, on ne va pas la nommer parce que j'ai ma fille dedans. Donc, ils sont déjà tous fâchés avec moi parce que j'arrête pas de parler du mal de ce collège. Donc, on va demander pardon et on va saluer tous les profs. Mais moi, j'étais au lycée Victor Hugo ici et c'était 1 million de fois mieux que l'Alliance française qui coûte. Bah, j'ai 2 filles, moi, au Chili en ce moment et elle me coûte $1000 par mois l'éducation des 2 filles. Je ne sais pas si c'est normal que tu dépenses $1000 par mois pour une éducation qui est 1 million de fois pire que la française, qui est gratuite. Donc je sais que les Français sont très autoflagellants. J'avais été au ministère de l'Éducation il y a 2 ans comme député, j'avais dit que l'éducation française était merveilleuse. J'avais eu tous les bureaucrates du ministère de l'Éducation qui m'étaient sautés dessus en me disant « Non, elle est dégueulasse. » Bon, ben, on a, je comprends que les Français aient un débat très intéressant qui est de s'exiger beaucoup plus. Mais de toute façon, même si vous n'aimez pas votre éducation publique, elle est gratuite et elle est, croyez-moi, beaucoup mieux que l'éducation privée chilienne, qui est très chère. Et moi, je trouve pornographique que tu dépenses 1 000 $ par mois pour élever 2 filles dans des écoles où elles ne sont pas diverses, il n'y a pas de diversité sociale, il n'y a pas de diversité ni ethnique, elles sont hyper homogènes, c'est des clubs privés où tout le monde se connaît, et je trouve ça très grave, parce que la formation d'un enfant doit se faire, comme à l'université par ailleurs, dans une idée d'une diversité, c'est ça aussi l'éducation.
Qu'est-ce qui fait qu'éventuellement tu ne pourrais pas décider, puisque même les 1 000 $ apparemment ils sont à peine rentabilisés en termes de bonne éducation, j'entends, de l'envoyer dans le système public. Est-ce qu'il est vraiment très mauvais au Chili?
C'est presque
condamné un enfant à...
Aucun fils de député, aucun fils de sénateur, aucun fils de ministre étudie dans un système public. Nous tous qui légiférons sur l'éducation, on a tous nos enfants dans l'éducation privée, tous, on dépense beaucoup. On va faire la pâte à l'Alliance, c'est une grande école. On va dire que l'Alliance c'est la meilleure de toutes, parce que je vais me prendre des grosses claques après. Mais en général, on va parler en général, l'éducation privée en général, sauf l'Alliance, est très déficitaire.
À propos des comparaisons, on a ces derniers temps, après la décision de Piñera de convoquer 1 ou 2 personnalités de la concertation, on a dit que Piñera avait un peu en tête l'ouverture à la française. Est-ce que tu as l'impression qu'effectivement, pour le nouveau président chilien, la figure de Sarkozy, la façon dont il pratique effectivement ces jours-ci même, la fameuse ouverture est une source d'inspiration, que ce sont deux chefs d'État qui ont un profil semblable?
Non, pas du tout. Moi, je raconte tout le temps une anecdote et je m'excuse face à Jean-Jacques Koulianski et à Olivier, parce qu'ils m'ont suivi.
Ils ont déjà écouté,
mais je trouve que c'est très intéressant, ça graphique très bien ce qu'est la droite au Chili. Il y a 10 ans, des conseillers municipaux de l'Openiste étaient allés au Chili. Ils avaient demandé à un diplomate de leur organiser la réunion. Le diplomate, de façon naïve, a dit bah, « Très bien, vous êtes de droite ou d'extrême droite ici, on va vous réunir avec la droite chilienne. » Ils ont eu un déjeuner avec des députés de la UDI, du parti de Pinochet, et de Rénovation Nationale. En sortant du déjeuner, ils ont appelé pour insulter le diplomate. Il veut dire que tu te fous de ma gueule, pourquoi tu m'avais emmené dans ce déjeuner? Nous, on n'est pas des fascistes. Les lepenistes, avaient dit. Et le diplomate lui dit, pourquoi? Je ne veux pas vous faire rencontrer les socialistes. Vous allez faire rencontrer les gens de droite. Oui, mais nous, on n'a jamais connu des fascistes comme ça. Ils sont contre le divorce, contre l'avortement thérapeutique, contre la sécurité sociale. Ils faisaient un décalogue de différence avec la droite chilienne. Donc tu peux imaginer que si les lepenistes considèrent que la droite chilienne est à leur droite, pour que les Français qui nous écoutent comprennent quelle droite on a. Donc, c'est pas comparable. Après, son ouverture est complètement ratée parce qu'il a invité un ministre, effectivement, de la coalition actuelle de gouvernement, de la centre-gauche, mais c'est un ministre de droite. Rabinette, c'est un homme de droite. Donc, c'est pas Kouchner. Si le jeu, c'était de répliquer l'idée de nommer des socialistes, Kouchner et Rabinette, c'est la nuit et le jour. Ça n'a rien à voir.
Est-ce que si Piñera t'avait dit,
Non.
Non.
Réponds avant. Oui, il me l'a déjà offert et non.
Non. Non. Et alors, comme disait Gilbert Bécaud, et maintenant?
On va créer un parti. On commence, vous pouvez déjà voter à chilecambio.cl sur le nom du parti, sur le périmètre idéologique et programmatique. On va créer un parti progressiste.
Il faut dire, Chile Cambio, ça veut dire le Chili a changé.
Ouais, voilà,
est-ce que c'est effectivement une affirmation que,
ah oui,
ne serait-ce que le fait que la concertation n'est plus là et qu'il y aura un président de droite, c'est déjà un changement. Mais est-ce que tu crois qu'il y en a d'autres changements,
oui, je crois
qui sont là et qui ne se reflètent pas encore dans les systèmes politiques?
Je vais le graphiquer, on dit, avec une étudiante au Congrès qui s'est approchée de Sciences Po, chilienne, qui m'a dit, je suis née l'année 1989. Moi qui suis considéré le candidat jeune dans mon pays, elle avait 20 ans. Et elle me dit, regarde, nous on est plus ou moins, entre ceux qui sont nés après 1980 et 1985, 4 ou 5 millions de Chiliens. Il y a une quantité énorme de Chiliens qui n'ont aucun contact émotionnel avec une histoire que toi tu l'as vécue comme protagoniste, et moi comme héritier peut-être, dramatique de toute l'histoire du coup d'État. Mais t'as un Chili émergent énorme de jeunes qui sont contre la dictature, mais qui ne supportent plus la revendication du monopole de la morale pour faire la politique. C'est-à-dire, durant des années, tu pouvais gagner des élections en disant, regardez, nous, on n'est pas parfaits, mais eux, c'est des pinochetistes. Et avec cet argument, ça suffisait pour gagner des élections. Moi, je trouve que le pays a changé, que maintenant, l'électorat demande beaucoup plus. Et ce diagnostic, on ne s'était pas tellement trompé, puisque a gagné quelqu'un de droite, 52 ans après, ça veut dire un demi-siècle après, la droite gagne électoralement. Et légitimement, ils ont gagné une élection. Parce que le pays disait, ça suffit d'interpeller les Chiliens en revendiquant le monopole de la morale.
Et donc, pour revenir, et maintenant, Chile Cambio, si j'ai bien compris, donc c'est un site web où les gens vont pour participer à la création d'un nouveau mouvement qui propose quoi? Parce que quand c'était Marco Porti, c'était clair, parce que ouais, c'était l'élection, donc le choix était clair. Maintenant, c'est différent parce que tu l'as dit aussi il y a quelques minutes, et j'ai la politesse d'attendre que le président s'installe avant de commencer éventuellement à critiquer ce qu'il fera ou ce qu'il fera pas. Et donc, tu sais pas ce qu'il va faire, à quoi tu vas éventuellement t'opposer. Est-ce que c'est juste essayer de retrouver, en se disant que les 20%, on n'obtient pas comme ça et qu'on a peut-être un engagement par rapport à ces gens qui ont voté pour toi. Autour de quelles idées, de quels projets tu convoques les gens, en sachant qu'en plus, tout le monde l'a dit, au Chili, il y a encore probablement un événement à venir, c'est la décomposition probablement de la coalition, de la concertation, une fois qu'effectivement, il ne sera plus au pouvoir. Ça commence déjà, mais ça pourrait s'accentuer après.
D'abord, j'espère que la concertation ne dégringolera pas. Ils vont résister. C'est pas dans mon intérêt de détruire rien, c'est de construire une autre alternative. Les dossiers proposés dans le programme sont encore absents parce qu'aucun candidat, et même pas le nouveau président, les a pris pour l'instant. Mmh. Moi, je continue à croire que la façon dont l'État prend l'argent des Chiliens pour les impôts est régressive. L'IVA, l'impôt à la valeur agrégée, est un impôt complètement régressif au Chili. Il est de 19%, un des plus hauts de l'Amérique du Sud, de l'Amérique latine. On n'a pas de variation. C'est 19% pareil pour tout le monde, les médicaments, tout. Il n'y a pas.
Il n'y a pas
comme en France, au Brésil.
Un TVA différencié pour la culture, par exemple.
Ouais, exactement, par exemple, ce qu'on proposait nous aussi. Ça continue à être un impôt que payent beaucoup plus les pauvres que les riches, puisque les riches dépensent moins et font des finances. Et donc, c'est les pauvres qui participent le plus à la récaudation fiscale. Et donc, je continue à croire qu'il y a une réforme des impôts à faire, que sur les ressources naturelles, il faut appliquer un royalty aux hydroélectriques, au cuivre. C'est une honte que les transnationales payent un 5%, ils peuvent payer un 8%. Ce que je veux dire, c'est que ce parti va continuer à défendre des choses qui sont complètement absentes du débat. Moi, je continue à croire qu'il faut distribuer le pouvoir, il faut des réformes politiques fédérales, j'étais déjà dit, du pouvoir, la loi électorale, la loi des partis. Sur les droits civils, je continue à croire qu'il faut plus de liberté, convaincu que les femmes ont tout le droit de décider sur leur vie sexuelle et reproductive. Je continue à croire qu'être homosexuel n'est pas une condition qui doit être moins reconnue par le code civil et le code pénal qu'un hétérosexuel. Enfin, tous ces dossiers ne sont pas pris ni par le gouvernement sortant, ni par le gouvernement qui rentre. Et je vais te dire qu'il y a une qui est militante socialiste et une qui est militante de droite. C'est quand même dramatique. Enfin, ça veut dire que tu as le blanc et le noir supposément qui se succèdent. Mais aucun des deux est d'accord pour faire une réforme aux impôts. C'est quand même intéressant. Donc, c'est un peu ça la force de notre candidature. C'est de dire, regardez, on n'est pas parfait, mais on est hyper décidé à vous dire, en très peu d'idées, nous, on pense qu'il faut faire ça et ça et ça. Et on pense que ce sera la possibilité que le Chili profite, une opportunité qui est un mérite de la concertation, d'avoir emmené le Chili faire cette porte qui est le futur. Et cette porte, on peut la croiser bien ou la croiser à moitié. Et moi, j'ai envie qu'on la croise bien. Et mon projet, notre projet, comme je te l'ai dit, propose différentes choses.
Les portes ont souvent deux battants,
ouais,
comme dans les bars américains.
Ouais, ouais.
Un battant à gauche, un battant à droite. C'est vrai que les cowboys rentrent par le centre, ils ouvrent
ouais,
de façon cinématographique les deux portes. Quel est le battant par lequel tu te sens le plus d'entrée? Je te pose la question parce que, évidemment, il y en a qui t'ont traité de droite, des gens qui t'ont traité de gauche.
Bah, je ne sais pas si un candidat de droite en Amérique du Sud est d'accord avec augmenter les impôts aux riches pour l'avortement, pour les droits civils, pour le mariage homosexuel et pour une politique autonome par rapport aux États-Unis. Si c'est quelqu'un de droite, je suis à droite. Mais je ne connais pas un seul leader de droite qui soit d'accord sur ces dossiers de société. Je ne connais pas un seul leader de droite qui soit OK sur l'idée que les plus riches paient plus d'impôts, qu'on augmente les impôts aux entreprises et on baisse aux personnes. Je connais seulement des leaders de droite en toute l'Amérique du Sud qui te proposent tout le contraire, que c'est un problème d'efficacité, qu'il n'y a pas de réforme à faire, qu'en fait, le vrai problème, c'est pas l'État, c'est pas la réforme, c'est l'inefficacité et la corruption. C'est le seul argument de la droite, c'est de dire les socialistes sont tous des inutiles et on a besoin de mettre des gens efficaces. Ben moi, je suis pas d'accord, je crois qu'il y a des réformes de société hyper complexes sur l'inclusion, sur la cohésion, sur les Indiens, les Mapuches Araucanos. Les candidats de droite au Chili sont pour l'application de la loi antiterroriste. Moi, je suis contre la loi antiterroriste. Donc, j'ai écouté exactement des gens qui essaient de me mettre sur une espèce d'ambiguïté. Oui, mais c'est aussi le jeu typique du combat électoral, ça me paraît légitime, mais c'est faux.
Je voudrais revenir à Haïti et à propos des questions de société, je voudrais vous faire entendre un extrait d'une autre radio qui résume justement dans la forme et dans le fond deux éléments de la société haïtienne qui sont très importants que tu as déjà évoqués.
Psaume 34, le verset 8. Regardez ça, le dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. N'est-ce pas Junior Latouche? N'est-ce pas Françoise Lazare? Jean-Yves Clairsou, c'est pas vous, ça me dit? Yolanda Torrent, Esterlin, Madame Roux, Davidson, oui, Alizine. La famille Joseph, la famille Césaire, la famille Ulysse, la famille Cadet, la famille Pierre.
Voilà, c'était un extrait d'une radio où on entend un curieux mélange de musique américaine, vraiment de la pire espèce, avec des lectures de la Bible et puis des messages à des personnes qui sont nommées, soit un tel ou une famille. Est-ce que Anne-Marie, ces faits religieux, c'est quelque chose de très très fort? On voyait des images l'autre jour à la télévision française, les gens pensaient à des émeutes et c'était pas ça, c'était une manifestation religieuse, les gens étaient en transe, etc. Est-ce que effectivement c'est un phénomène frappant?
Oui, oui, absolument. Moi, j'ai assisté justement près de la présidence, d'ailleurs, à des grands, je ne sais pas si des messes, mais des grands rassemblements comme ça. Puis c'est très impressionnant parce que les gens dansent, crient, font des gestes, implorent, supplient. Oui, oui, il y a tout un peuple qui s'est mis comme ça, qui s'est approprié. Je ne sais pas précisément dire quoi, parce que je pense que c'est pas la même chose pour les uns et les autres. Enfin, toujours est-il que les évangélistes sont très très présents, que les églises qui sont, c'est quand même assez émouvant de voir qu'elles sont toutes à terre. J'ai assisté aux funérailles des évêques de la cathédrale qui ont été enterrés le jour où j'arrivais ou le lendemain. Des églises cassées, mais à l'extérieur, elles sont, il y a des masses, des foules énormes qui viennent prier. Oui, mais je vous dis, j'arrive pas à définir de quelle nature sont ces rassemblements. Je crois qu'effectivement, quand vous parlez tout à l'heure du bien et du mal, il y a les deux. Il y a les deux qui s'entrelacent, qui s'aiment en plus. Ça crée des choses vraiment étranges. Comme si toute la spiritualité qu'il y avait dans ce monde était en ce moment, parce que je pense que c'est pas vrai en toutes circonstances, à cet endroit-là du globe.
Marco Riquez, je sais que tu es pressé, donc on va te libérer bientôt. Je voulais avant savoir si, pour toi, le regard notamment de tes compatriotes chiliens en France, qui ont plusieurs couches géologiques, on pourrait dire. Il y a des gens qui sont venus à l'époque du coup d'État, à l'époque effectivement à laquelle ton père a été assassiné dans son affrontement contre la dictature. Il y a leurs enfants qui ont grandi ici, mais il y a après d'autres gens qui commencent à venir. Est-ce que cette communauté chilienne de France a pour toi une signification spéciale? Est-ce que tu te sens une proximité particulière et tu voudrais éventuellement l'avoir participé d'une certaine manière dans la nouvelle aventure dans laquelle tu te lances?
Bah oui, énorme. Bah, je défends aussi le droit des Chiliens de voter à l'étranger, à propos de droite et gauche, à droite et contre. Moi, je suis pour. Je trouve que c'est complètement anormal que l'immigration politique et économique, ou quel que soit, des gens qui sont entrés du Chili sont autant Chiliens que ceux qui vivent dans le Chili. Enfin, c'est incroyable. Les Argentins, non. T'imagines, les Argentins qui sont à côté. Tu peux voter en Équateur, tu peux voter en... Tu peux même élire des députés au Congrès équatorien, ce qui existe dans plusieurs pays, bien sûr. Ben, je suis pour, mais j'ai un contact très important, très émotif avec la communauté chilienne. Ben, j'ai été exilé, donc j'ai un grand regard. Mais en même temps, je voulais féliciter Anne-Marie, parce que le Chili, vous savez pas, mais nous, on est un pays très peu solidaire. On a beaucoup de mal à aider le monde. Pour nous aider nous-mêmes, on fait des télétons, on a tout genre de mécanismes pour aider les pauvres du pays. Mais on a beaucoup de mal à comprendre qu'on a un monde globalisé. Et que, bon, enfin, et le Chili n'a pas la même tradition que la France sur l'idée d'aider. Et l'Haïti, c'est le principal pays où, dans les dernières 5 années, 6 années, on a une vraie mission. Il y a des militaires, il y a une vraie mission solidaire, et c'est, on suit très près l'Haïti, non seulement à cause du drame, mais parce que le Chili a enfin débloqué une vraie stratégie de solidarité. Mais pour vous qui est complètement normal en France, cette idée de participer, vous êtes un pays beaucoup plus riche bien sûr, mais le Chili qui est quand même un pays qui a des réserves, qui pourrait faire beaucoup plus, n'a jamais accepté culturellement l'idée au Congrès de financer des missions de solidarité avec d'autres pays. Et le Haïti, c'est le seul pays où on a une vraie mission, mais une grande mission. Je crois qu'on est la troisième force la plus importante sur le terrain. C'est très très fort la présence du Chili en Haïti.
Marco Enriquez, merci d'être venu. On aurait pu discuter très longtemps. Bonne chance pour la suite. Et puis voilà.
Merci Eduardo et merci Anne-Marie. Ciao.
Et on va écouter encore, cette fois-ci, c'est du jazz. Vírgenes del Sol, c'est un classique de la musique folklorique d'Amérique latine, en version jazz, évidemment. Il faut le dire, il faut le remarquer, vient de se terminer un sommet latino-américain et des Caraïbes avec une décision très intéressante qui est celle de créer une communauté des pays d'Amérique latine et des Caraïbes qui soit d'une certaine manière une sorte d'alternative à l'organisation des États américains, c'est-à-dire une organisation sans les États-Unis et le Canada. Les plus enthousiastes parlent même de la renaissance du vieux bon rêve bolivarien, c'est-à-dire celui de construire une Amérique latine unis au sud du fameux Rio Grande. On va voir ce qu'il en est. Est-ce que tu as eu l'opportunité de voir, de croiser des Latino-Américains à Haïti? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde venu de tout le monde en ce moment à Haïti?
Il y a le monde entier. Oui, il y a énormément de monde. C'est d'ailleurs assez amusant parce que chacun arbore un peu son pays. Quoi. On sait tout de suite à qui on a affaire. Oui, il y a des Latino-Américains forcément, mais il y a beaucoup d'Européens, beaucoup d'Américains forcément, beaucoup d'Asiatiques. Il y a franchement le monde entier. Moi, j'ai vu dans mon avion, il y avait des Israéliens, énormément d'Israéliens, et à côté de moi, j'avais un Palestinien qui venait, tout ce monde-là partait aider Haïti. Quoi. Il y a vraiment les plus grands amis et les pires ennemis qui sont sur place. Quoi.
Et alors, est-ce que on a l'impression que le gouvernement haïtien, les autorités haïtiennes, les Haïtiens eux-mêmes sont en mesure de pouvoir effectivement reprendre leurs affaires en main? Parce que, je vous demande ça, parce qu'on a vu des manifestations de jeunes Haïtiens notamment, un peu contre l'excès des présences étrangères, notamment beaucoup de manifestations contre l'excès des militaires américains qui avaient même à un moment donné pris le contrôle de l'aéroport, etc.
Et je crois qu'ils sont, enfin, ils y sont encore, il y a très peu de temps qu'ils en sont partis, mais beaucoup de gens parlent de coup d'État. Il y a beaucoup de gens qui parlent carrément de coup d'État des Américains. Bon, je pense que c'est un peu excessif. Ils se sont engagés à partir à une date précise. Mais c'est vrai qu'ils sont très présents pour une raison aussi. D'abord, ils sont relativement proches. Et puis, une raison, c'est que l'État haïtien est défaillant à un point qu'on n'imagine même pas.
En tout cas, historiquement, les États-Unis s'est permis à plusieurs reprises de s'installer à Haïti comme si c'était chez eux. Il faut dire que le président Préval a été invité, évidemment, il était participant à part entière à ce sommet qui s'est tenu au Mexique et qu'il est venu avec un engagement d'aide très fort de la part des pays latino-américains qui ont effectivement pris conscience que la meilleure façon d'éviter que les États-Unis se sentent autorisés à être excessivement omniprésents, c'est d'être là les premiers à aider Haïti. On va écouter maintenant une chanteuse mexicaine, on va rester au Mexique avec Lila Downs. Lila Downs et une chanson qui s'appelle Ojo de Culebra.
Tu cuerpo va cargando cadenas, cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra. Tu frente que en el rostro porta tus penas.
Aliviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento. Tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso mi condena.
Se me cae como a la culebra.
Yo lo tiro todo este rencor.
Se me cae
esa falsedad.
Así yo me limpio también. Dame tu boca.
C'est avec Lila Downs et cette chanson qui s'appelle Ojo de Culebra que se termine ces boulevards franco-latino. Encore une fois, en direct de la maison de l'Amérique latine. Vous le trouvez aussi bien sur le flux de la radio La Franco-Latina que vous écoutez comme ça en continu avec des programmes, des émissions, des entretiens, de la musique. Et vous pouvez évidemment l'écouter à la demande. Vous pouvez les télécharger pour l'écouter en vous promenant dans les rues de Paris, de Santiago, du Mexique ou même des Port-au-Prince. Bertrand Boeuf était comme d'habitude dans les contrôles et Anne-Marie Gustave, merci beaucoup d'être venue nous raconter un peu ces aventures haïtiennes et radiophoniques.
Exactement. Puis j'espère que la radio va toujours continuer à aider les Haïtiens à survivre dans cette parce que là le drame, le deuxième drame arrive, hein, c'est la saison des pluies. Tout le monde vit dehors, je crois qu'on va encore avoir besoin, ils vont avoir besoin d'aide et besoin de radio, parce que tout le monde va déménager.
On restera attentifs et merci aussi à ceux qui sont là dans le public qui est venu jusqu'à l'auditorium de la Maison de l'Amérique latine. On se voit bientôt. Ciao.
Se me caen esas falsedades.
Y así yo me limpio también del dolor. Dame tu boca, tu palabra retumba. Viento de noviembre que arrastra tu piel.
Dame tu mano, que en tu brazo me muevo. Siémbrame en el suelo donde está tu merced.
Óyelo mi madre, óyelo mi hermana.
Óyelo este hijo de mis entrañas.
Óyelo mi madre, óyelo mi hermana.
Óyelo este hijo de mis entrañas.
Franco Latina.